De l'impossibilité d'une abolition-compensation graduelle aux États-Unis. Une abolition graduelle, avec compensation versée aux propriétaires, telle que celle que proposait Lincoln au Sud en 1860-1861, aurait-elle pu fonctionner aux États-Unis? On peut en douter, en raison des sommes en jeu, sauf à envisager un transfert financier extrêmement important et très improbable des États du Nord vers les propriétaires du Sud, ou bien une transition très longue, s'étalant jusqu'à la toute fin du XIXe siècle, voire jusqu'aux premières décennies du XXe siècle. Le plus probable est que sans la guerre ou des révoltes d'esclaves victorieuses, elles-mêmes difficilement envisageables car la population servile était numériquement moins dominante qu'aux Antilles, le système esclavagiste aurait continué. Compte tenu des intérêts en présence et de la prospérité du régime négrier en place en pleine expansion en 1860, le Sud n'était sans doute pas prêt à accepter une fin paisible. Pour bien comprendre les sommes en jeu, rappelons que la compensation britannique de 1833 coûta aux contribuables du Royaume-Uni l'équivalent d'environ 5% du produit intérieur brut, ce qui est considérable, alors même que le nombre d'esclaves était beaucoup plus limité, l'équivalent d'environ 3% de la population britannique de l'époque, et que le produit intérieur brut britannique par habitant était extrêmement élevé pour l'époque. Les esclaves constituaient alors un actif très profitable et leur prix de vente se situait généralement entre 10 et 12 années de salaire d'une main-d'œuvre libre équivalente. Prenons un exemple avec des sommes d'aujourd'hui. Si un esclave fournissait un travail dont le salaire pour un travail libre équivalent était de 30 000 euros par an, 2 500 euros par mois, approximativement le salaire moyen en France et en Europe de l'Ouest actuellement, et qui, a priori, en rapportait au moins autant à son propriétaire employeur, alors le prix de vente de cet esclave était entre 300 000 et 360 000 euros. On voit aisément comment, dans une société où les esclaves représenteraient la quasi-totalité de la main-d'œuvre, la valeur marchande des esclaves pourrait atteindre des niveaux astronomiques, potentiellement jusqu'à 7 ou 8 années de production annuelle, 700%, 800% du revenu national. C'est ainsi que la France a imposé en 1825 une dette de plus de 3 années de revenu national à Haïti, tout en étant convaincue de faire des sacrifices, par comparaison, à ce que lui rapportaient les esclaves de Saint-Domingue. Dans le cas du sud des États-Unis, où les esclaves représentaient environ un tiers de la population, il existe de multiples sources permettant de savoir comment le prix des esclaves variait en fonction de l'âge, du genre et de la productivité. Des recherches récentes ont montré qu'en 1860, la valeur marchande des esclaves dépassait 250% du revenu national sud-états-unien et avoisinait 100% du revenu national total des États-Unis dans leur ensemble. Si une telle compensation avait été adoptée, alors il aurait fallu augmenter d'autant la dette publique et faire payer les intérêts comme le capital par les contribuables au cours des décennies suivantes. Pour résumer, pour que les esclaves deviennent libres sans spolier leurs propriétaires, il aurait fallu transférer la charge financière sur le reste du pays. Les ex-propriétaires seraient devenus titulaires d'une créance considérable sur les contribuables états-uniens, ex-esclaves compris. C'est exactement ce qui se passa au Royaume-Uni et en France, avec la spécificité haïtienne, sauf que dans le cas des États-Unis, les sommes en jeu étaient autrement plus élevées en raison de l'ampleur prise par le système esclavagiste. Rappelons que les dépenses publiques annuelles d'éducation, tout niveau de gouvernement confondu, ne dépassaient 1% du revenu national dans aucun pays au XIXe siècle. Une dette fédérale de 100% du revenu national aurait donc représenté plus d'un siècle d'investissement éducatif, sans compter que le simple paiement d'intérêts, autour de 5% du revenu national, aurait mobilisé 5 fois plus de recettes fiscales que l'ensemble des écoles, lycées et universités du pays. On peut aussi noter que la dette issue de la guerre civile, qui constitua la première grande dette fédérale de l'histoire des États-Unis, occasionnée par la mobilisation, le ravitaillement et l'armement de plus de 2 millions de soldats nordistes pendant 5 ans, s'élevait en 1865 à 2,3 milliards de dollars, soit l'équivalent d'environ 30% du revenu national annuel des États-Unis, somme qui paraissait gigantesque à l'époque et dont le paiement fut d'ailleurs à l'origine de conflits politiques complexes au cours des décennies suivantes. Pour résumer, il aurait fallu envisager un coût 3 ou 4 fois plus élevé que celui de la guerre elle-même pour financer une compensation des propriétaires d'esclaves au prix du marché. On peut raisonnablement penser que les acteurs n'étaient pas dupes. Quand Lincoln proposa une abolition compensation aux propriétaires d'esclaves en 1860-1861, chacun savait bien qu'aucune véritable compensation ne pourrait avoir lieu, ou bien alors à un niveau inacceptable pour l'une ou l'autre des parties. La véritable question était plutôt de savoir si l'on décidait de repousser ces difficultés à plus tard et si l'on acceptait dans l'immédiat de geler l'extension de l'esclavage aux nouveaux États de l'Ouest. C'est ce que refusèrent les propriétaires du Sud. Il est d'ailleurs intéressant de noter que des estimations portant sur l'ampleur des compensations avaient été réalisées dès les années 1810-1820 par Jefferson et Madison, et tous deux avaient abouti à des sommes gigantesques, de l'ordre d'une année de revenu national des États-Unis de l'époque. Ils avaient également formulé des propositions pour parvenir à rassembler cette somme. Il suffisait, selon eux, de vendre entre un tiers et la moitié des terres du domaine public, en particulier des nouvelles terres de l'Ouest. Cela aurait impliqué la constitution d'immenses domaines terriens au sein des nouveaux territoires et au bénéfice des anciens planteurs, en lieu et place des parcelles familiales des petits colons qui étaient en train de peupler ces territoires, ce qui aurait entraîné des tensions sociales et politiques considérables. Ce type de proposition fut évoqué de temps à autre de 1820 à 1860, mais il est difficile de voir dans quelles circonstances une coalition politique majoritaire au niveau fédéral aurait pu se risquer à l'adopter, sauf à changer radicalement de système politique. De la justification propriétariste et sociale de l'esclavage. L'abolition de l'esclavage posait des problèmes idéologiques redoutables aux sociétés de propriétaires du XIXe siècle, qui craignaient qu'une abolition sans indemnisation des esclavagistes finisse par remettre en cause l'ensemble de l'ordre propriétariste et du système de propriété privée. Dans le cas des États-Unis, cette complication était en outre aggravée par l'ampleur des compensations requises, qui, si elles étaient mises en œuvre, risquaient de provoquer d'autres types de tensions, si bien que l'on ne savait plus trop quelle issue donner au problème. Il faut également ajouter que, au-delà de ces enjeux propriétaristes, le conflit autour de l'esclavage avait des soubassements politico-idéologiques extrêmement profonds aux États-Unis, renvoyant à des modèles de développement et des visions de l'avenir bien distincts. La vision rurale et esclavagiste sudiste fut notamment exprimée avec force par John Calhoun, vice-président états-unien de 1825 à 1832, plusieurs fois ministre de la guerre et des affaires étrangères, et sénateur démocrate de Caroline du Sud jusqu'à sa mort en 1850. Chef de file des esclavagistes au Sénat, Calhoun présentait sans relâche l'esclavage comme un bien positif, « slavery as a positive good », et non pas comme le mal nécessaire, « necessary evil », trop souvent décrit par les défenseurs du système qu'il jugeait timoré. Le principal argument de Calhoun avait trait aux valeurs de paternalisme et de solidarité entourant selon lui le système esclavagiste. D'après le sénateur démocrate, les personnes malades et les vieillards étaient par exemple beaucoup mieux traitées au sein des plantations du Sud que dans les centres urbains et industriels du Nord, du Royaume-Uni et d'Europe, où les ouvriers qui n'étaient plus en état de travailler étaient abandonnés dans la rue ou dans des hospices inhumains. Selon Calhoun, cela n'aurait jamais pu survenir dans une plantation, où les vieux et les infirmes continuaient de faire partie de la communauté et d'être traités avec respect et dignité jusqu'à leur dernier jour. Pour Calhoun, les propriétaires de plantations comme lui-même incarnaient un idéal de républicanisme agraire et de communauté locale. À l'inverse, les industriels et les financiers du Nord n'étaient que des hypocrites qui prétendaient se soucier du sort des esclaves, mais dont le seul objectif était d'en faire des prolétaires et de pouvoir les exploiter comme les autres avant de les jeter quand ils ne rapporteraient plus rien. Sans doute les discours de Calhoun avaient-ils du mal à atteindre les abolitionnistes convaincus, familiers des témoignages sur les châtiments corporels et autres mutilations subies par les esclaves dans les plantations, ou des récits de fugitifs comme Frédéric Douglass. Mais pour beaucoup d'autres États-Uniens de l'époque, l'idée selon laquelle certains planteurs du Sud s'intéressaient au moins autant au sort de leurs esclaves que les capitalistes du Nord à celui de leurs ouvriers apparaissait plausible. Et de fait, il existait sans doute des cas où l'affirmation n'était pas totalement fausse. L'idéal de républicanisme rural, selon Calhoun, se rapprochait de l'idéal jeffersonien d'une démocratie de propriétaires terriens, avec toutefois une différence essentielle. Jefferson voyait dans l'esclavage un mal dont il ne savait pas comment se défaire. « I tremble for my country when I reflect that God is just and that his justice cannot sleep forever », s'inquiétait le rédacteur de la Déclaration d'indépendance, qui cependant ne parvenait pas à concevoir la possibilité d'une émancipation pacifique. « We have a wolf by the ears and we can neither hold him nor safely let him go. Justice is in one scale and self-preservation in the other. » Pour Jefferson, qui s'exprimait alors à l'occasion des débats de 1820 au Congrès autour de l'extension de l'esclavage au Missouri, qu'il soutenait, de même qu'il soutenait le droit des colons missouriens de refuser l'existence de Noirs libres dans leur nouvel État, l'émancipation n'était envisageable que si elle s'accompagnait non seulement d'une juste compensation des propriétaires, mais également d'une expatriation complète et immédiate des anciens esclaves. Cette crainte d'une vengeance inévitable des esclaves libérés, ou simplement d'une cohabitation impossible, était très répandue parmi les propriétaires. C'est ce qui explique la création en 1816 de l'American Colonization Society, ACS, dont le projet, ardemment soutenu par Jefferson, Madison, Monroe et un grand nombre d'esclavagistes, consistait précisément à déporter les esclaves émancipés en Afrique. Il s'agissait en quelque sorte d'une forme exacerbée de la séparation entre blancs et noirs mise en place au Sud entre 1865 et 1965. Quitte à mettre une certaine distance entre les deux groupes, pourquoi ne pas les séparer d'un océan? Ce projet fut un échec retentissant. Entre 1816 et 1867, à peine 13 000 Africains-Américains émancipés ont été relocalisés par l'ACS au Libéria, soit moins de 0,5% du nombre total d'esclaves, ce qui suffit cependant à perturber sérieusement le développement ultérieur du Libéria, divisé entre Américos et autochtones quasiment jusqu'à nos jours. Il faut également noter que de nombreux propriétaires soutenaient l'ACS dans l'idée de déporter les Noirs libres, dont on s'inquiétait de la progression et de la propension à fomenter des révoltes, tout en maintenant l'esclavage. N'en déplaise à Jefferson, l'émancipation ne pouvait se faire que sur le sol états-unien, et il fallait surtout s'atteler à faire en sorte que les relations entre les deux groupes deviennent aussi bonnes que possible après l'émancipation, par exemple en ouvrant l'accès aux écoles et aux droits politiques aux anciens esclaves et à leurs enfants. Ce n'est malheureusement pas la voie qui a été suivie, sans doute car les anciens propriétaires s'étaient convaincus qu'il était impossible d'envisager une cohabitation pacifique avec les anciens esclaves. La Reconstruction et la naissance du social-nativisme aux États-Unis. Ces débats autour des justifications de l'esclavage doivent être pris au sérieux, car ils eurent une influence fondamentale sur les évolutions ultérieures, non seulement pour ce qui est de la persistance des inégalités raciales et des discriminations aux États-Unis, mais plus généralement concernant la structure particulière du conflit politico-idéologique et électoral états-unien et sa transformation depuis le XIXe siècle. L'observateur étranger, et parfois aussi l'autochtone, s'étonne souvent que le Parti démocrate, qui en 1860 défendait l'esclavage face au Parti républicain de Lincoln, souvent en utilisant des arguments proches de ceux de Calhoun ou de Jefferson, tous deux éminents démocrates, soit ensuite devenu en 1932 le parti de Roosevelt et du New Deal, puis en 1960 celui de Kennedy, de Johnson, des Civil Rights et de la War on Poverty, et enfin dans les années 1990-2020 celui de Clinton et Obama. Nous aurons largement l'occasion de revenir sur ces questions, en particulier dans la quatrième partie de ce livre, quand nous examinerons et comparerons l'évolution de la structure socio-économique des clivages politiques et électoraux aux États-Unis et en Europe au XXe siècle et au début du XXIe siècle, ainsi que dans d'autres grandes démocraties électorales, comme l'Inde ou le Brésil. Nous verrons alors que cette étrange trajectoire politico-idéologique est en réalité riche de leçons et d'implications pour l'ensemble de la planète. À ce stade, soulignons simplement que c'est par petits ajustements et sans discontinuité majeure que le Parti démocrate a cessé d'être jeffersonien et calhounien pour devenir rooseveltien, puis johnsonien, et finalement clintonien et obamaïen. En particulier, c'est en dénonçant ce qu'il percevait comme l'hypocrisie et l'égoïsme social des élites industrielles et financières républicaines du Nord-Est, un peu à la façon de Calhoun dans les années 1830, que les démocrates sont parvenus à reconquérir le pouvoir fédéral dès les années 1870-1880 et à former les bases de la coalition qui allait faire leur succès à l'époque du New Deal. De 1820 à 1860, le conflit électoral opposait le plus souvent les démocrates, particulièrement bien ancré dans les États du Sud, comme d'ailleurs tout au long de la période 1790-1960, et les Whigs, qui avaient remplacé les fédéralistes dans les années 1830, avant d'être eux-mêmes remplacés par les républicains dans les années 1850, et qui réalisaient traditionnellement leur meilleur score dans le Nord-Est. Jusqu'à l'adoption en 1860 d'une plateforme républicaine lincolnienne, axée sur l'extension du travail libre à l'Ouest, et une abolition très graduelle au Sud, les deux camps évitaient soigneusement de s'affronter sur la question esclavagiste, qui avait été temporairement refermée en 1820 avec le compromis du Missouri, nouvel État esclavagiste entré dans l'Union en même temps que le Maine libre, même si les tensions étaient incessantes, en particulier au sujet des fugitifs. Dans les États du Sud, les candidats des deux partis rivalisaient d'ardeur pour défendre l'esclavage, et accuser l'autre camp de tolérer en son sein la présence d'abolitionnistes au Nord. En pratique, à l'intérieur de chaque État, par exemple en Virginie, le vote démocrate attirait surtout les électeurs blancs des comtés ruraux reposant sur les plantations, ceux qui avaient le plus de mal à imaginer un avenir en dehors du système esclavagiste, alors que les Whigs séduisaient les comtés plus urbains et éduqués. Pendant la période de la Reconstruction, de 1865 à 1880 environ, les démocrates se montrèrent très efficaces pour dénoncer les élites financières et industrielles du Nord-Est, qui, selon eux, tiraient les ficelles du Parti républicain dans le seul but de défendre leurs intérêts et d'accroître leurs profits. Ces accusations se concentrèrent notamment sur la question du paiement des dettes de guerre, du régime monétaire et du bimétallisme or-argent. Pour résumer, les démocrates accusèrent les banquiers bostoniens et new-yorkais de se préoccuper avant tout des confortables intérêts qu'ils voulaient toucher sur les sommes prêtées pour financer la guerre, alors que le pays avait surtout besoin de souplesse monétaire pour pouvoir faire crédit à ses fermiers et à ses petits producteurs et financer des pensions aux modestes vétérans, quitte à tolérer un peu d'inflation et à privilégier le papier-monnaie, les greenbacks, et le dollar-argent plutôt que le retour immédiat au dollar-or, exigé par les banquiers. L'autre grande question était celle du tarif douanier. De même que les fédéralistes et les Whigs avant eux, les républicains voulaient imposer des droits de douane élevés aux importations textiles et manufacturières venant du Royaume-Uni et d'Europe, afin de protéger les productions industrielles du Nord-Est et de fournir des recettes à l'État fédéral, en partie pour payer la dette et en partie pour financer les infrastructures qui leur paraissaient utiles pour le développement industriel. Les démocrates, traditionnellement sourcilleux sur les droits des États et méfiants face à l'expansion du gouvernement central, eurent beau jeu de dénoncer l'égoïsme des élites de la Nouvelle-Angleterre, toujours prêtes à grever le pouvoir d'achat du reste du pays pour défendre leurs intérêts, alors même que l'Ouest et le Sud des États-Unis avaient surtout besoin de libre-échange pour exporter leurs productions agricoles. Les démocrates prirent également la défense des nouveaux immigrés européens, irlandais et italiens notamment, dont les élites républicaines anglo-protestantes se méfiaient et qu'elles cherchaient à écarter du droit de vote en retardant l'acquisition de la nationalité américaine, puis en leur imposant des conditions d'éducation pour l'exercice du suffrage. C'est d'ailleurs en partie pour cette raison que les nordistes laissèrent les sudistes blancs reprendre le contrôle des États du Sud et exclure les ex-esclaves de l'exercice du droit de vote. Au fond, de nombreux républicains pensaient que les Noirs n'étaient pas prêts pour la citoyenneté et n'avaient aucune intention de se battre pour cela, d'autant plus qu'ils voulaient pouvoir continuer de mettre des conditions aux nouveaux arrivants dans le Nord-Est, alors que les démocrates de New York et de Boston se faisaient fort de naturaliser à tour de bras les Irlandais et les Italiens. Le 14e amendement, adopté en 1868 pour remplacer la règle des 3/5, prévoyait certes que les sièges à la Chambre des représentants seraient dorénavant répartis en prenant en compte le nombre d'hommes adultes effectivement inscrits sur les listes électorales, ce qui aurait pu constituer un mécanisme précis et efficace permettant de mettre la pression sur les États du Sud. Mais il ne fut jamais appliqué, car les États du Nord-Est se rendirent compte qu'ils avaient beaucoup à y perdre compte tenu de leurs propres restrictions sur le droit de vote. Il s'agit clairement d'un moment de bifurcation important. Finalement, le 15e amendement adopté en 1870 décréta l'interdiction théorique de toute discrimination raciale sur le droit de vote, mais son application fut entièrement laissée aux États. Les démocrates ségrégationnistes étaient justement en train de reprendre la main dans les États du Sud, dans un climat marqué par une extrême violence et de nombreux lynchages et expéditions punitives contre les ex-esclaves qui prétendaient faire valoir leurs nouveaux droits et déambuler publiquement. La situation était parfois proche de l'insurrection, comme en Louisiane en 1873, où s'opposaient deux gouverneurs concurrents, l'un démocrate et le second républicain, élus avec des voix des Noirs. Face à la détermination et à l'organisation des ségrégationnistes qui avaient détenu le pouvoir depuis toujours dans les États du Sud, il aurait fallu une volonté extrêmement forte des nordistes pour imposer l'égalité raciale qui n'existait pas. L'opinion nordiste, la plus courante, était qu'une petite minorité de grands planteurs extrémistes étaient responsables de la guerre et qu'il était plus que temps de laisser le reste des sudistes gérer leurs affaires et leurs inégalités. Une fois leur contrôle rétabli sur les appareils d'État, les administrations et les policiers, les constitutions et les cours suprêmes, et une fois surtout le départ des dernières troupes fédérales en 1877, rupture symbolique marquant la fin officielle de la période de la Reconstruction, les démocrates du Sud purent mettre en place le régime ségrégationniste, qui pendant près d'un siècle permit d'exclure les Noirs du droit de vote et de l'accès aux écoles et aux lieux publics fréquentés par les Blancs. Dans les années 1870-1880, de nombreux électeurs noirs disposaient du droit de vote et votaient massivement républicains dans les États du Sud. Certaines assemblées comptant même jusqu'à 40% de noirs, par exemple en Louisiane et en Caroline du Sud. Puis, les législations ségrégationnistes et les faux tests éducatifs prirent le dessus à tel point que la participation électorale parmi les noirs des États du Sud passa de 61% à 2%. Entre 1885 et 1908. Un régime légal et un droit du travail spécifique permettant de comprimer les salaires dans les plantations furent également mis en place, et un nombre croissant de Noirs, qui avaient à un moment nourri l'espoir d'accéder à une liberté pleine et entière et de pouvoir travailler un jour sur leur propre terre, commença à envisager la possibilité de la grande migration vers le Nord. Ce processus fut très graduel, puisque la proportion d'Africains américains vivant au Sud passa lentement de 92% en 1860 à 85% en 1920, avant de baisser rapidement à 68% en 1950 et 53% en 1970, puis de se stabiliser à ce niveau avec une légère remontée depuis 2000. C'est sur la base de cette plateforme complexe, défense intransigeante de la ségrégation au Sud, souplesse monétaire et report de la dette de guerre, opposition aux tarifs manufacturiers, soutien à la nouvelle immigration blanche au Nord, et plus généralement en s'opposant à ce qu'il décrivait comme l'aristocratie financière et industrielle du Nord-Est, qui n'avait fait la guerre et libéré les esclaves que pour accroître ses profits et défendre ses intérêts, que les démocrates obtinrent dès 1874 une majorité au Congrès et remportèrent l'élection présidentielle de 1884, après avoir déjà remporté, en termes de voix, celle de 1876, à peine plus de 10 ans après la guerre civile. L'alternance est chose normale dans une démocratie électorale, et ces succès démocrates étaient pour partie la conséquence d'une lassitude naturelle face aux républicains, qui avaient en outre été frappés par divers scandales financiers, ce qui arrive souvent quand on est au pouvoir. Pour autant, il est intéressant de comprendre la forme de la coalition d'idées et d'aspirations qui a permis de sédimenter une alternance aussi rapide, car cela conditionne les évolutions futures. Pour résumer, l'idéologie politique du Parti démocrate qui se mit en place au cours de la période de la Reconstruction relève de ce que l'on peut appeler de façon générale le social-nativisme, ou peut-être plutôt en l'occurrence le social-racialisme, car les Noirs étaient tout aussi natifs des États-Unis que les Blancs, et davantage que les Irlandais et les Italiens, même si les esclavagistes les auraient volontiers déportés en Afrique. On pourrait aussi parler de social-différentialisme, pour désigner les idéologies politiques promouvant une certaine égalité sociale, mais uniquement au sein d'un segment de la population. Par exemple, les Blancs, ou les personnes considérées comme les véritables natifs du territoire en question, étant entendu que ce qui est en jeu relève davantage de la légitimité supposée des différents groupes à occuper les lieux que de leur nativité véritable, par opposition aux Noirs ou aux personnes considérées comme extérieures à la communauté, par exemple les immigrés extra-européens dans l'Europe actuelle. En l'occurrence, la dimension sociale du social-nativisme du Parti démocrate était tout aussi réelle que son nativisme. Les démocrates réussirent à apparaître aux électeurs blancs issus de catégories sociales modestes et moyennes comme plus à même que les républicains de défendre leurs intérêts et de leur offrir des perspectives. Nous verrons dans les prochaines parties de ce livre comment cette coalition politique social-nativiste démocrate de la période de la Reconstruction contribua de fait au développement d'un ambitieux programme de réduction des inégalités aux États-Unis, en particulier avec la création d'impôts fédéraux sur les revenus et les successions dans les années 1910 et le New Deal dans les années 1930, avant de finalement se défaire de son nativisme dans les années 1960, en faisant le choix du tournant des Civil Rights. Nous étudierons également les points communs, mais aussi et surtout les profondes différences entre la trajectoire suivie par le Parti démocrate états-unien au cours de la période 1860-1960 et les formes de social-nativisme en cours de développement en ce début de XXIe siècle, en particulier en Europe et aux États-Unis, cette fois-ci sous les traits du Parti républicain.